comprendre ce qui s'était passé le 8 mai 2002.
Quand je me trouvais à Karachi, c'était le moment où on venait de relaxer deux personnes, Asif Sahir et Mohamed Sohel, qui avaient été arrêtés assez vite, début 2003, quelques mois après l'attentat, et qu'on avait présentés comme presque les petites mains de cet attentat, ceux qui avaient rangé l'explosif dans la voiture et qui avaient, disons, apporté la touche finale au plan macabre.
Des islamistes. On avait arrêté deux islamistes
Oui.
et on avait dit, voilà,
Ce sont eux.
c'est une branche de l'Al-Qaïda pakistanaise.
C'est ça. Alors, quand je m'y trouve en 2009, ces deux personnes viennent d'être relaxées. Je peux prendre connaissance de leur dossier. En fait, je découvre que c'est quand même deux pauvres petits gars qui ont eu, certes, des allégeances avec des groupes islamistes, mais à Karachi, enfin, c'est le cas de beaucoup de jeunes. Et par ailleurs, à cette période, il y a notamment, et c'est ça qui m'intéressait, le procès d'un troisième homme qui a été, lui, arrêté plus tard et qui est considéré comme le cerveau de l'opération elle-même. C'est-à-dire pas le grand ordonnateur qui a commandité l'attentat, mais celui qui l'a, disons, coordonné l'opération. Et son procès se déroule devant la cour d'appel antiterroriste de Karachi. Et devant cette cour, les juges sont extrêmement sévères sur la manière dont a été conduite l'enquête, en disant en substance que les preuves ont été manipulées, les aveux de témoins ont été extorqués sous la torture. Enfin, c'est terrible pour la justice pakistanaise. Et donc, cet homme-là est lui aussi relaxé.
Donc les trois hommes qu'on a désignés suite
Oui.
à l'attentat de 2002 comme étant les
Oui.
petites mains et l'orchestrateur de
Oui.
l'attentat sont 6 ans plus tard relaxés.
Enfin, parmi les multiples contradictions soulevées lors de ces audiences, il y en avait qui étaient quand même sidérantes sur des points matériels essentiels, c'est-à-dire sur l'explosif. On voyait bien que les enquêteurs pakistanais avait relevé la présence de telle ou telle substance, en particulier du nitrate d'ammonium, chez certains suspects. Mais le problème, c'est que les expertises faites sur le lieu d'attentat déterminaient de façon définitive que ce n'est pas cet explosif-là qui a été utilisé, mais que c'est un explosif militaire avec une composition qui emprunte à celle du TNT, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que mentionnent les policiers pakistanais.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des porcs armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Maître Thibault de Montbrial, vous êtes avocat de 6 blessés. Dans cette affaire Karachi, ce qui la rend compliquée, c'est qu'il y a deux affaires, en fait. Il y a une première affaire, c'est un attentat, sur lequel, au fond, pour l'instant, l'enquête nous amène à savoir peu de choses. On ne sait pas qui sont les exécutants et on ne sait pas qui sont les commanditaires. Et à l'autre bout, il y a une deuxième affaire. Cette affaire, c'est sur la signature du contrat. Et où là, en revanche, les choses s'éclaircissent plus rapidement. C'est comme si, parce qu'on ne peut pas le prendre par le bout de l'attentat, on revenait en arrière et on reprenait l'affaire par le bout français.
Vous avez raison de souligner qu'il y a vraiment deux affaires dans cette affaire. C'est comme deux rives qui se feraient face et la question étant de savoir s'il existe un pont. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à cette question. Il y a simplement une interrogation majeure qui est celle de mes clients, qui est de savoir pourquoi est-ce que sur la rive française, des éléments propres au contrat ont été dissimulés aux juges qui enquêtaient sur l'autre rive, c'est-à-dire la rive de l'attentat au Pakistan. Peut-être que c'est simplement pour éviter un embarras sur des questions de financement politique qui n'auront finalement rien à voir avec cet attentat. Peut-être pas. Si la réponse est non et qu'ils en sont convaincus, ce qui est possible, eh ben ils en prendront acte. Il y a aucune volonté, et ça c'est absolument crucial de bien le comprendre, il n'y a aucune volonté des blessés de l'attentat de Karachi de stigmatiser a priori